Est-ce que vous saviez qu'en France, d'après les sondages, il y a presque deux fois plus de personnes qui se disent non-croyantes, d'accord, que de personnes qui se disent sans religion? Suivez bien ce que je dis là. Il y a presque deux fois plus de personnes qui se disent non-croyantes que de personnes qui se disent sans religion. Ça veut dire que si vous demandez aux Français s'ils sont croyants ou non, d'accord, 45% d'entre eux vous diront non-croyants. Mais si vous demandez à ces mêmes Français s'ils appartiennent ou non à une religion, seulement 25% d'entre eux vous diront sans religion. C'est bizarre, non? Cette étrange statistique illustre bien le principe suivant. C'est qu'il est plus facile de perdre sa foi que de perdre sa religion. Autrement dit, la foi d'une personne commence généralement à décliner avant que décline sa pratique religieuse. Et ce matin, je me tiens devant des gens religieux. N'est-ce pas? La preuve, vous vous êtes levé exprès pour venir au culte ce matin. Vous inclinez vos têtes lorsque vient le moment de prier. Et vous allez écouter, je n'en doute pas, consciencieusement la prédication du pasteur. Nous sommes des gens religieux. Moi aussi, bien sûr, je suis une personne religieuse. Et cela, d'ailleurs, nous va bien. On a une étiquette, on a un langage, on a des rites. Et puis, avec un peu de pratique, notre religion devient pour nous une discipline bien rodée. On peut vraiment s'y sentir à l'aise, n'est-ce pas? Le problème, c'est que parfois, cela peut nourrir chez nous un sentiment de sécurité mal fondé. Un sentiment de sécurité mal fondé. Au point où nos réflexes religieux risquent de prendre le pas sur la foi authentique. Au point où nous risquons de nous installer dans une illusion selon laquelle tout va bien dans notre vie. Rien n'a besoin d'être changé. Nous avançons, nous roulons à 130 km/h sur l'autoroute du paradis et Dieu nous attend à l'arrivée pour nous féliciter. Sauf que Jésus a dit, cette parole que nous avons lue tout à l'heure, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Une porte étroite, un chemin resserré. Est-ce que c'est l'expérience que vous faites de la vie chrétienne? Posons-nous cette question diagnostique avant de lire le texte dans quelques instants. Posons-nous cette question diagnostique. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnerions-nous à la conscience que nous avons de notre vulnérabilité devant Dieu? Sur une note de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnerions-nous à la conscience que nous avons de notre vulnérabilité devant Dieu? Très vulnérable ou très peu vulnérable? On a déjà vu dans le livre d'Amos qu'un des problèmes principaux du peuple d'Israël à cette époque, de l'auditoire, donc des destinataires de la prophétie d'Amos, un de leurs problèmes principaux, c'est que le peuple est présomptueux. Il est présomptueux, il se croit en sécurité derrière sa religiosité et son confort ou sa prospérité matérielle. Mais Dieu, on l'a déjà vu hein, à travers les paroles du prophète, Dieu veut détruire cette suffisance-là. Et notamment dans le texte que nous apprêtons à lire maintenant, Dieu veut faire mesurer au peuple, précisément, sa vulnérabilité, afin, si possible, de l'amener ou de le ramener à la repentance et à la foi. Il veut lui faire mesurer sa vulnérabilité. Si nous devions retenir une chose de ce texte que nous allons lire et que nous allons étudier ensemble, je pense que ce serait la leçon suivante. Toute simple, hein, en définitive, hein. Dieu veut nous faire prendre conscience que nous sommes sur la corde raide et que nous avons désespérément besoin de lui. Alors lisons le texte et voyons comment Dieu lui-même aborde le sujet. Donc on est dans Amos chapitre 3 et on va lire les versets 12 à 15. C'est la fin du chapitre 3, d'accord ? Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger sauve de la gueule du lion deux pattes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les Israélites, habitant à Samarie, eux qui sont allongés sur des lits et des tapis de Damas. Écoutez et témoignez de ceci contre la maison de Jacob, oracle du Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je demanderai compte à Israël, de ses transgressions, je lui demanderai compte des autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai la maison d'hiver sur la maison d'été. Les palais d'ivoire seront ruinés. Ce sera la fin de nombreuses maisons, oracle de l'Éternel. Prions. Encore une fois, Seigneur, nous nous apprêtons à étudier ensemble ta parole, mais nous reconnaissons et confessons notre besoin d'être conduits par toi-même, par ton esprit, pour bien saisir ce que toi-même veux nous dire. Alors s'il te plaît, sanctifie maintenant nos cœurs et sanctifie la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Dieu veut donc nous faire prendre conscience que nous sommes sur la corde raide, que nous sommes vulnérables et que nous avons désespérément besoin de lui. La première chose qu'il y a dans ce texte, vous l'avez sans doute remarqué, c'est une image. La première chose que nous avons, c'est une image que Dieu emploie pour décrire la situation désespérée du peuple. Les Israélites, dit-il, sont comme la proie d'un lion. Cette image n'est pas entièrement nouvelle, puisque rappelez-vous, Dieu s'est déjà comparé lui-même à un lion qui rugit à plusieurs reprises depuis le début du livre d'Amos, et puis il a déjà comparé le peuple lui-même à une proie, d'accord ? Et il va réutiliser cette image pour expliquer au peuple qu'il compte intervenir contre le peuple à cause de ses péchés. Ça non plus, c'est pas une nouveauté. Et cette intervention va ressembler à un lion qui saisit sa proie dans sa puissante mâchoire pour le dévorer. Cette situation est tellement grave, dit Dieu, que si quelques-uns devaient échapper à ce jugement, ce serait comme si un berger arrachait de la gueule du lion deux pattes ou un bout d'oreille. Dieu souligne ici une notion qui est ancienne. C'est que Dieu compte effectivement préserver un reste parmi le peuple. Et à partir de ce verset, d'ailleurs, on va retrouver cette note d'espoir à plusieurs reprises dans la suite du livre d'Amos. Et on aura l'occasion d'évoquer ces passages au fur et à mesure. Mais pour l'heure, Dieu ne fait pas cette précision d'abord pour donner de l'espoir au peuple. Mais plutôt pour lui faire mesurer le caractère totalement miraculeux et immérité du salut. Si tant est qu'il doit y avoir un salut. Vous voyez ? Dieu dresse d'ailleurs un contraste saisissant entre la situation désespérée dans laquelle se trouve en réalité le peuple, coincé comme une proie dans la mâchoire du lion, et l'illusion de sécurité dans laquelle vit le peuple. Vous avez noté à la fin du verset 12, eux qui sont allongés sur des lits et des tapis de Damas. Tranquille, quoi. C'est comme si Dieu disait au peuple, eh bien, en dépit des apparences, vous n'êtes pas plus en sécurité qu'une proie dans la gueule d'un lion. Et si vous deviez être sauvés, cela tiendrait absolument du miracle. Et cela dépendrait totalement de moi. Dieu est en train de montrer au peuple, tout simplement, combien il est difficile d'être sauvé. Combien c'est miraculeux d'être sauvé. Combien cela dépend de lui. Vous vous souvenez peut-être d'une jeune fille qui s'appelle Baya Bakari. Ça vous dit quelque chose, Baya Bakari? L'unique survivante du crash d'un avion de la compagnie Yemenia Airlines, le 30 juin 2009 au large des Comores. Vous savez, ça vous revient? 152 morts, une rescapée. 152 morts, une rescapée. C'était il y a quelques mois. Qu'est-ce que cela souligne à votre avis? Est-ce que ça souligne la facilité ou la difficulté à survivre à un tel accident, le fait qu'il y ait une rescapée? Baya Bakari a sorti un livre récemment, et elle a 13 ans cette jeune fille, hein. Elle a sorti un livre récemment intitulé « Moi, Baya, la miraculée ». Le monde entier a été stupéfait par cette histoire. C'est passé aux informations pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les circonstances étaient telles qu'on ne pouvait pas, humainement parlant, imaginer qu'il y ait un seul rescapé de cet accident. De la même façon, dans ce texte, si Dieu précise ici que quelques personnes échapperont peut-être à son jugement, c'est pour insister sur le caractère totalement miraculeux et immérité du salut. Dieu veut faire mesurer au peuple sa vulnérabilité afin qu'il se rende compte qu'il n'y a de salut nulle part ailleurs qu'auprès de Dieu. Parce que si salut il devait y avoir, cela tiendrait du miracle. Notez en effet que Dieu se présente dans cette image à la fois comme le lion, mais aussi comme le berger, comme le juge, mais aussi comme le sauveur. Donc si salut il y a, cela tiendrait du miracle et cela dépendrait entièrement de Dieu. La première chose que Dieu cherche à faire comprendre à son auditoire dans ce texte, c'est donc que le peuple, malgré ce que lui en pense, malgré ses convictions personnelles, le peuple est en réalité dans une situation désespérée. Et qu'il ne peut compter que sur un miracle de la part de Dieu pour être sauvé. Est-ce que vous avez déjà pris la mesure de votre vulnérabilité devant Dieu? Dieu est en train de nous dire que nous avons peut-être l'impression d'être confortablement assis dans notre fauteuil en première classe, mais qu'en réalité, les réacteurs de l'avion sont en flammes et nous ne pouvons rien y faire. Est-ce que nous mesurons au quotidien que notre salut, si tant est qu'il est possible, que notre salut tient du miracle? Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus disait à ses disciples qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples, ils disent « mais alors ?» Enfin, ils sont étonnés, ils sont perplexes et ils disent à Jésus « Mais alors, qui peut être sauvé si c'est tellement difficile? Qui peut être sauvé? C'est pas possible !» Et Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc, chapitre 10, versets 26 et 27. Et la suite du texte nous explique pourquoi, en effet, il est si difficile d'être sauvé. Et la raison, c'est la suivante. C'est que nous allons devoir rendre compte à Dieu de nos transgressions. Voilà tout simplement pourquoi il est si difficile d'être sauvé. Parce que nous allons devoir rendre compte à Dieu de nos transgressions. Voyons verset 13. Dieu va faire une affirmation solennelle. Et il introduit cette affirmation de manière à ce que son auditoire comprenne que cette affirmation a un caractère déterminant pour le message que Dieu est en train d'essayer de lui faire passer. Pourquoi le peuple se trouve-t-il dans une situation tellement grave et désespérée? Eh bien parce qu'un Dieu saint et tout-puissant va lui demander compte de ses transgressions. Écoutez, verset 13, écoutez et témoignez de ceci contre la maison de Jacob, oracle du Seigneur, l'Éternel, et puis encore pour en rajouter une couche, le Dieu des armées, le jour où je demanderai compte à Israël de ses transgressions, etc. Je demanderai compte des autels de Bethel et ainsi de suite. Le peuple doit comparaître devant un Dieu qui est saint, le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Loi. Il doit comparaître devant un Dieu qui est saint, c'est-à-dire dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Okay? Et en même temps, c'est un Dieu qui est tout-puissant, le Dieu des armées, c'est-à-dire un Dieu qui est parfaitement en position d'appliquer toutes ses sentences sans que personne ne puisse y résister ou y échapper. Quel effet cette affirmation est-elle censée produire sur le peuple, à votre avis? Ben, j'ai un souvenir particulier de mes années passées au collège, d'accord? Donc, pré-ado, ado, ok? J'étais pas forcément l'élève modèle, mais à vrai dire, j'en connaissais peu des élèves modèles à cette époque. Et nous étions avec mes copains une joyeuse ribambelle, plutôt correcte en général, mais qui tirait quand même un certain plaisir, voire une certaine fierté, de la transgression de certaines règles dans le collège, ok? Alors, je vais pas vous raconter tout dans les détails. Mais il y a une sensation qui est restée dans ma mémoire. Il y a une sensation qui est restée dans ma mémoire. C'est à chaque fois qu'une surveillante me disait « Saran, vous venez avec moi. Madame la conseillère d'éducation veut vous voir dans son bureau. » Et là, pendant que je suivais la surveillante dans les couloirs du collège jusqu'au bureau de madame la conseillère d'éducation, je peux vous dire que je repensais à ce moment-là à toutes les bêtises que j'avais pu faire et je me demandais quel genre de savon j'allais prendre, quoi. Quel savon on allait me passer. C'est ce genre d'effet que les paroles de Dieu dans ce texte sont censées avoir sur le peuple. Mais ce n'est pas devant une conseillère d'éducation que le peuple va comparaître, mais devant le Dieu saint et tout puissant. Cette annonce a pour but d'attirer l'attention du peuple sur ses péchés, sur les bêtises qu'il a pu faire récemment, et lui faire se demander quel genre de savon on va lui passer. Le but, c'est de lui faire mesurer la gravité de ses péchés. Cette annonce a pour but de lui faire mesurer au peuple la gravité de ses péchés. C'est à cause de ses péchés, à cause de l'imminence du jugement, que le peuple se trouve dans cette situation désespérément dangereuse, comme une proie dans la gueule du lion. Et Dieu est en train de tracer clairement pour le peuple le lien entre le péché du peuple, son jugement, le jugement du peuple, la destruction du peuple et la mort du peuple. Dieu est en train de tracer clairement le lien entre ces choses. Mais est-ce que nous aujourd'hui, nous mesurons la gravité du péché ? La dernière fois, nous parlions de l'importance d'appeler un chat un chat. Et un péché, un péché. L'apôtre Paul, lui, n'y va pas par quatre chemins. Il dit par exemple, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ou alors, il dit aussi, « Le salaire du péché, c'est la mort. » L'apôtre Jean, il ne mâche pas ses mots non plus quand il dit, « Celui qui commet le péché est du diable. » Celui qui commet le péché est du diable. 1 Jean 3, verset 8. Vous voyez quel devrait être notre sentiment de vulnérabilité devant Dieu. Nos péchés font de nous la proie du lion. Nos péchés ont mis le feu au réacteur de l'avion. Et notre salut, si tant est qu'il soit possible, doit nécessairement relever du miracle. Alors, quelles sont les raisons de notre confiance ? Ben justement, quelles sont les raisons de notre confiance ? C'est cette question que Dieu soulève dans la suite et la fin de ce passage. Dans des versets où Dieu va prononcer deux sentences très précises contre le peuple, des sentences précises contre le peuple. Deux choses, vous l'avez peut-être relevé, deux choses vont être détruites. Deux choses vont être détruites. Les cornes de l'autel, verset 14. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Et la deuxième chose, verset 15, c'est quoi ? Les palais d'ivoire seront ruinés. De quoi s'agit-il ? Alors faisons un petit saut en arrière dans l'histoire d'Israël. D'accord ? On monte dans la machine à remonter le temps. Ça va être plus facile pour ceux qui ont participé à l'étude biblique du jeudi soir, n'est-ce pas, quand nous avons fait le survol de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas pour vous culpabiliser, pas du tout. On va récapituler maintenant. De quoi s'agit-il ? Les cornes de l'autel, les palais d'ivoire. On va faire un saut dans l'histoire d'Israël et remonter au grand schisme. Lorsque le peuple d'Israël a été divisé en deux royaumes. Catastrophe. Catastrophe nationale. Catastrophe de l'histoire, étant donné les promesses que Dieu avait faites. Le peuple de Dieu va être divisé en deux royaumes distincts. Et le roi fondateur du royaume du Nord, le royaume d'Israël, ceux qui sont les destinataires de cette prophétie d'Amos, donc, le fondateur, qui s'appelle Jéroboam, je vois qu'il y en a qui ne suivent pas, qui n'ont pas suivi, Jéroboam, voyez, a été confronté à un problème lorsqu'il a fondé le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ceux qui sont les destinataires de cette prophétie. Il a été confronté à un problème parce qu'il craignait que sa population, la population de son royaume, il craignait que sa population se rallie à l'autre royaume, le royaume du Sud. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'autre royaume, à Jérusalem, qui se trouvait dans le royaume du Sud, que se trouvait le temple de l'Éternel. Alors, Jéroboam était bien embêté, mais il a fait preuve d'imagination et de créativité. Il a donc installé des idoles dans son propre royaume, des veaux d'or. Il va en installer un au nord, un au sud, comme ça, les gens, s'ils veulent quitter le pays, et ben ils passeront nécessairement par là, ils verront les veaux d'or. Et là, Jéroboam va dire au peuple de rendre un culte à Dieu dans ces endroits-là, auprès de ces veaux d'or, et puis auprès d'autels qu'il va construire dans ce but-là, pour que le peuple rende un culte à Dieu, non pas à Jérusalem au temple, mais en restant dans les limites du territoire du Nord, du royaume du Nord, ok ? Tout ça, ça vous est raconté dans le premier livre des Rois, chapitres 12 et 13. Et puis, notamment à Bethel, Jéroboam va installer un autel j'ai envie de dire un hôtel particulier, mais hôtel A-U-T-E-L, n'est-ce pas ? Un hôtel particulier qui va imiter le modèle de l'hôtel des parfums qu'il y avait au temple de Jérusalem, le temple authentique. Et il est allé jusqu'à décréter, ce Jéroboam, jusqu'à décréter une fête nationale annuelle calquée, okay, calquée sur le modèle des fêtes qui devaient avoir lieu normalement au temple de Jérusalem. Okay ? Et il fait tout ça de sa propre initiative, ce Jéroboam. Jéroboam a véritablement créé un culte de substitution. Un culte de substitution en concurrence avec le véritable temple de Dieu. Donc, vous voyez, les cornes de l'autel à Bethel, c'est les cornes de cet autel qui imitait l'autel des parfums qui normalement, lui, devait avoir lieu, devait rester au temple, à Jérusalem. Quelques années plus tard, le terrible roi Achab, ou Akab, je ne sais pas comment vous préférez qu'on le dise. Achab occupe le trône et décide de bâtir un formidable palais royal faisant étalage de richesses acquises avec perfidie sur le dos des indigents. L'histoire d'Achab est absolument horrible. C'est un mauvais roi, le texte précise même qu'il n'y en avait pas eu de pire avant lui. D'accord ? Et il arrive et il décide de construire un immense palais. Ce palais portait le nom de maison d'ivoire, la maison d'ivoire, à cause de la matière utilisée pour toutes les ornementations, pour faire étalage de cette prospérité acquise avec perfidie sur le dos des faibles et des pauvres. Dans l'enceinte du palais, d'autres résidences ont été construites dans le même style, avec des ornementations en ivoire. Et érigé sur la montagne de Samarie, ce palais magistral faisait concurrence évidemment au palais de David, situé à Jérusalem, sur la montagne de Sion, tout comme l'autel de Bethel faisait concurrence à l'autel du Temple, à Jérusalem. Eh bien, Dieu est en train de dire de ces deux choses, qui sont représentatives d'une sécurité religieuse et d'une sécurité matérielle qui se sont substituées en fait aux promesses originelles de Dieu, Dieu est en train de dire au sujet de ces choses qu'elles seront détruites. Qu'elles seront détruites. Cette sentence, évidemment, vous l'imaginez bien, très précise contre l'autel de Bethel, contre les palais d'ivoire construits par Achab. Cette sentence, c'est évidemment une énorme provocation destinée au peuple d'Israël. Mais le but de cette provocation est simple. C'est de faire éprouver au peuple les raisons de sa confiance orgueilleuse. C'est de faire éprouver au peuple les raisons de sa confiance orgueilleuse. Vous connaissez sans doute le fameux conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Vous connaissez cette histoire ? Sinon, je vous la résume. Dans cette histoire, un empereur se fait arnaquer par des tisserands qui lui vendent une tunique inexistante, mais prétendue tellement précieuse que seules les personnes réellement sages et intelligentes peuvent la voir. Alors évidemment, l'empereur, il ne veut pas admettre qu'il est idiot, alors il fait semblant de voir ses habits. Il fait semblant de les mettre. Et il finit par se présenter devant le peuple, tout nu. Personne n'ose admettre que les vêtements sont inexistants, parce que ce serait admettre qu'on est bête ou idiot. Personne n'ose admettre qu'ils sont inexistants, à l'exception d'un enfant dans la foule qui manifeste tout fort sa surprise. Et alors tout le monde, y compris l'empereur, va prendre conscience tout d'un coup de la réalité de la situation. Okay. Mais de même, à travers ces paroles d'Amos, Dieu veut faire prendre conscience au peuple qu'il est tout nu. Le peuple s'est revêtu de vêtements imaginaires, l'illusion d'une sécurité religieuse, en rendant un culte à Dieu auprès de l'autel de Bethel. L'illusion d'une sécurité matérielle, un temple resplendissant, des maisons d'ivoire, des palais d'ivoire. Vous savez, des fouilles archéologiques ont été entreprises à Samarie, par l'université de Harvard en 1908 et ensuite en 1931. Et vous savez ce qu'on a découvert ? On a découvert les vestiges d'un immense palais. Et tout autour de ces ruines, et entremêlés avec ces ruines, des milliers de fragments d'ivoire. Je renverserai la maison d'hiver sur la maison d'été, les palais d'ivoire seront ruinés. Ce sera la fin de nombreuses maisons. » Entre parenthèses, l'archéologie nous montre bien la fiabilité de ces textes. On l'a dit, Dieu veut nous faire éprouver les raisons de notre confiance aujourd'hui. On est confortablement installés dans nos sièges, en première classe, on roule à 130 sur l'autoroute en direction du paradis. On se dit, Dieu va nous accueillir, nous féliciter, tout roule, tout baigne. Mais Dieu veut nous faire éprouver les raisons de cette confiance. Vous savez, il y avait quelque chose d'extrêmement tragique dans la situation des Israélites habitant le royaume du Nord. Parce que, en pensant pouvoir se confier, dans une imitation de l'héritage mosaïque et davidique, l'héritage de Moïse et de David, une imitation de l'alliance en d'autres termes, en pensant pouvoir se confier dans une imitation de l'alliance, ils se sont en réalité aliénés de ce qui constituait le cœur même de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils sont devenus comme étrangers aux promesses de grâce que Dieu avait faites et dont le temple à Jérusalem et même le palais du roi devaient témoigner. Dieu avait promis d'envoyer un libérateur de la descendance de David, pas de la descendance d'Achab, ni de Jéroboam. Un libérateur qui devait s'asseoir à un lieu précis sur le trône de David, pas sur le trône à Samarie, pas sur le trône de Jéroboam et d'Achab, mais sur le trône de David. Un libérateur qui devait venir et dont la mission était de garantir la relation perpétuelle du peuple avec Dieu, cette relation qui était tellement abîmée, tellement détériorée. Dieu avait prévu que cette réconciliation soit rendue possible par un sacrifice parfait, une effusion de sang dont témoignait tous les ans lors du grand jour des expiations, cette fête annuelle que les Juifs devaient célébrer tous les ans au temple, une effusion de sang dont témoignait le sang versé par le souverain sacrificateur sur les cornes de l'autel, mais pas les cornes de l'autel de Bethel, les cornes de l'autel des parfums dans le temple à Jérusalem. Et Dieu est en train de reprocher au peuple d'Israël d'avoir substitué une prétendue sécurité religieuse et matérielle aux promesses de Dieu qui sont censées fonder la foi authentique. Ils ont substitué une prétendue sécurité religieuse et matérielle aux promesses même de Dieu qui étaient censées fonder la foi authentique. Alors je vous pose la question. On reprend la machine à voyage dans le temps, on revient en l'an 2010. Je vous pose la question aujourd'hui. Quel est l'objet de votre confiance? Ce matin même. Est-ce que c'est votre religion, l'objet de votre confiance? Est-ce que ce sont vos réflexes religieux? Vos habitudes? Votre étiquette? Vos rites? Ou bien, est-ce que c'est Jésus-Christ, l'objet de votre confiance? Jésus-Christ dont le sang innocent a été versé pour le pardon des péchés de tous ceux qui se confient en lui. On peut imiter une religion. Et pour ne pas paraître idiot, on peut faire semblant, pas trop difficile, on peut faire semblant que le culte, les chants, les prières, même les sacrements, même la prédication, nous ont tellement édifiés. Mais ces choses-là ne sont pas suffisantes pour assurer notre sécurité éternelle. Mais Jésus-Christ, lui, il est suffisant. Et il n'y a que lui qui l'est. En introduction, je disais qu'on était des gens religieux, n'est-ce pas ? Et que cela nous allait bien. Je disais qu'on avait une étiquette, un langage, des rites, et qu'avec un peu de pratique, notre religion pouvait devenir pour nous une discipline bien rodée, bien maîtrisée. Mais nos réflexes religieux ne risquent-ils pas parfois de prendre le pas sur une foi authentique? Nous avons vu que ce texte avait pour but de nous faire prendre conscience que nous étions en fait sur la corde raide et que nous avions désespérément besoin de Dieu. En fait, nous sommes suspendus à lui. Nous sommes absolument dépendants de lui. Heureusement qu'il nous a fait des promesses de grâce et de pardon. Heureusement qu'il les a réalisées en Jésus, par le sang versé à la croix et par le triomphe de sa résurrection heureusement, n'est-ce pas? Dieu est un lion qui mord. Mais Dieu est aussi le berger qui sauve. Et Dieu est même l'agneau qui se substitue au peuple dans les crocs du lion. Nous étions tellement en danger que si nous devions être sauvés, cela devait tenir du miracle. Ce danger tenait au fait que nous devions comparaître devant le Dieu saint et tout-puissant. Face à lui, toute notre religiosité et toute notre sécurité matérielle ne pouvaient pas peser bien lourd. Alors comment évaluez-vous ce matin la conscience de votre vulnérabilité devant Dieu ? Conscient de notre vulnérabilité devant Dieu, nous serons poussés d'autant plus à chercher auprès de lui notre refuge et notre sécurité. Et si nous cherchons auprès de lui notre refuge et notre sécurité, nous les trouverons en Jésus-Christ, qui a vaincu tous nos ennemis à notre place. Jésus-Christ qui a subi le jugement de nos péchés à notre place. Et Jésus-Christ qui aujourd'hui veut régner dans notre vie à notre place. Finalement, on pourrait peut-être résumer le message de ce texte. J'aurais peut-être dû commencer par là, ça vous aurait épargné les 30 dernières minutes. On pourrait résumer le message de ce texte à cette parole de Paul, l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Amen.